RFI.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Les deux Corées unies aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est l'image qu'on va retenir de ce début des Jeux avec la venue à Pyeongchang de la sœur du dirigeant nord-coréen. C'était pour la cérémonie d'ouverture. Ce rapprochement spectaculaire contraste avec l'écart croissant entre les économies des deux pays.
À l'aune de l'histoire olympique, les divergences économiques entre les deux Corées sont devenues abyssales. En 1988, lors des derniers Jeux organisés par Séoul, son produit intérieur brut se monte à 200 milliards de dollars. C'est déjà 12 fois plus que celui de la Corée du Nord. Depuis, la Corée du Sud est devenue la 11e puissance économique mondiale, avec un PIB avoisinant les 1500 milliards de dollars, tandis que la Corée du Nord plafonne vers la 100e place du classement. Elle a seulement doublé son PIB à 32 milliards de dollars.
De très gros écarts donc, et des échanges quasiment éteints depuis la fermeture du parc industriel intercoréen de Kaesong.
Oui, ce parc situé en territoire nord-coréen, tout proche de la frontière, a été lancé en 2003. C'était un embryon de réconciliation par l'économie décidé dans la période de réchauffement diplomatique entre les deux pays, officiellement toujours en guerre. Environ 50 000 ouvriers nord-coréens ont été recrutés pour travailler dans des usines montées par des entreprises sud-coréennes. Mais avec le retour de la tension entre les deux capitales et à cause des nouveaux essais nucléaires menés en 2016 par le régime nord-coréen, Séoul met fin à l'expérience. Au grand dam des industriels du Sud, une dizaine d'entre eux mettent la clé sous la porte, d'autres délocalisent leur production. Ils ont perdu dans l'affaire des centaines de millions de dollars. À la faveur de cette soudaine détente olympique d'hiver, eh bien, ils rêvent de recommencer. Dans une lettre au gouvernement sud-coréen, ils demandent l'autorisation d'effectuer une visite sur place, au moins pour constater dans quel état se trouvent les usines qu'ils ont dû abandonner du jour au lendemain.
Alors, avec cette opération de charme autour des JO, est-ce que les Nord-Coréens tentent de regagner les faveurs économiques de Séoul pour échapper aux sanctions ?
Ben, c'est vrai que leurs sources de revenus, l'envoi de travailleurs nord-coréens à l'étranger, les exportations d'armes ou de métaux rares vont s'amenuiser dans les prochains mois sous la pression des sanctions décidées aux Nations Unies. Mais dans cet étau qui se resserre, la Corée du Nord fait tous les jours la démonstration de sa résilience, de sa capacité à rebondir, par exemple en mettant la main sur les usines de ce parc intercoréen de Kaeseon. Dans le plus grand secret, les usines auraient été rouvertes à la fin 2017 et leur production serait maintenant écoulée sur les marchés du Nord. Les vêtements sortant des usines de Kaesong sont très apprécié par la nouvelle classe moyenne nord-coréenne.
Car malgré les sanctions, une classe moyenne a bien émergé en Corée du Nord.
Oui, ce régime obsédé par sa sécurité continue à donner la priorité à l'industrie militaire. Cela lui a permis de se doter de l'arme atomique et cela lui a procuré des revenus d'exportation en vendant des armes en Afrique par exemple. Mais depuis 2013, Kim Jong-un a opté pour une stratégie double, voulant développer l'armée et en même temps l'économie. Sans renoncer officiellement au dogme communiste, le régime laisse prospérer le secteur privé. Il fournirait 30 à 50% du produit intérieur brut. Ce sont ces petits opérateurs très agiles qui parviennent à échapper aux sanctions.
En bref, dans l'économie aux États-Unis, Donald Trump présente aujourd'hui au Congrès son plan pour améliorer les infrastructures.
Une enveloppe de 200 milliards de dollars est dédiée à cette priorité de la Maison-Blanche. Le président américain compte surtout sur les fonds privés pour abonder cette amorce. Mais cette nouvelle ligne budgétaire fait débat. Les démocrates demandent une hausse des impôts pour la financer.
Par manque de main-d'œuvre, l'un des plus grands producteurs britanniques de fraises envisage de délocaliser ses plantations en Chine.
Oui, car d'ici un an, en mars 2020, les saisonniers européens ne pourront plus venir librement au Royaume-Uni et Theresa May n'a toujours pas défini sa future politique migratoire. Faute de visibilité sur les intentions du gouvernement, la société Highgrove anticipe et regarde donc du côté de la Chine pour maintenir son activité. Il faut savoir que l'an dernier, 4000 emplois saisonniers sont restés vacants dans l'agriculture britannique depuis le Brexit.
Merci Dominique.